Seigneur éternel, notre Dieu, je remets ce moment en tes mains. Je te demande simplement, Père, d'ouvrir mon cœur à ta parole, d'ouvrir ma bouche afin que ta parole puisse sortir de moi. Ô Père éternel des armées, envoie-moi de ton esprit, afin que tout ce que je vais dire soit esprit et vie et apporte la vie pour tous ceux qui et celles qui l'écouteront. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Yeshua. Amen. Je vous salue, mes frères et sœurs, dans le Messie Yeshua, partout où vous vous trouvez, quelle que soit votre position. Je vous salue. Bonjour ou bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2022 et dans une semaine, le pass vaccinal va être suspendu en France. Néanmoins, nous sommes toujours... nous ne sommes pas, mais bon, l'Ukraine, nous sommes toujours dans un état de guerre, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est toujours la guerre en Russie, Ukraine bat toujours son plein, de même que les sanctions, hein, voilà, de même qu'au niveau des médias, presque tous les médias donnent les mêmes nouvelles, ce qui est suspect quand même, n'est-ce pas? Il y a peu de médias ici en France qui apportent un son de cloche différent. C'est suspect. Tout compte fait, notre regretté frère de Bordeaux, le professeur Jacques Ellul, a dit que lorsque nous entendons une information dans les médias ou à la télé, nous devons d'abord la mettre en doute jusqu'à preuve du contraire. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je vous conseille de faire. Voilà, pour ne pas être influencé par les positions des uns et des autres. Je nous rappelle que média vient de médium. Voilà. Donc, nous allons poursuivre notre enseignement sur 1 Samuel 6. Et aujourd'hui, nous considérons les versets 13 au verset 19. Nous allons voir que c'est très riche. Je lirai que dans la version hébraïque aujourd'hui. Parce qu'il y a de légères différences avec la version Louis II ou Martin ou Observald ou Louis II 21. Les gens de Beth Shemesh faisaient alors la coupe du froment dans la vallée. En levant les yeux, ils aperçurent l'arche et se réjouirent à cette vue. Le chariot arrivé au champ de Josué de Beth Shemesh s'y arrêta. Là se trouvait une grande pierre. On fendit en morceaux le bois du chariot, l'on immola les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites avaient descendu l'arche du Seigneur et le coffret qui l'accompagnait contenant les objets d'or et avaient posé le tout sur la grosse pierre. Selon les gens de Beth Shemesh, les gens de Beth Shemesh offrirent le même jour des holocaustes et d'autres sacrifices à l'Éternel. Ce que voyant les 5 princes des Philistins s'en retournèrent à Écron ce jour-là. Quant aux hémorroïdes imités en or que les Philistins avaient offert en expiation à l'Éternel, en voici le compte. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ashkelon, une pour Gat, une pour Écron. Mais le nombre des mulots d'or égalait celui de toutes les villes des Philistins soumises aux 5 princes depuis la ville forte jusqu'à la place ouverte et jusqu'à la grosse pierre sur laquelle on posa l'arche du Seigneur et qui subsiste aujourd'hui encore dans le champ de Josué de Beth Shemesh. Cela veut dire que celui qui a écrit ce chapitre était présent sur les lieux. Le Seigneur frappa les habitants de Beth Shemesh pour avoir regardé dans l'arche. Voilà. Donc, alors que dans les autres versions en français, c'est regardé l'arche. Il frappa dans cette population encore une différence. 70 hommes sur 50 000. Alors que le français, en tout cas les traductions plutôt françaises, Louis II 21, autres, avait mis 50 070, ce qui est quand même énorme. Donc, c'est 70 hommes sur 50 000. Le peuple fut consterné de cette grande mortalité que lui avait infligée le Seigneur. Et les gens de Beth-Shemesh se dirent, qui peut subsister devant l'Éternel, ce Dieu saint, et où l'arche montera-t-elle de chez nous? Ils envoyaient alors des messages aux habitants de Kiriath-Yearim pour leur dire, les Philistins ont restitué l'arche du Seigneur, venez, faites-la monter vers vous. La ville de Beth-Shemesh est une ville de Lévites. Donc ce sont des Lévites qui sont dans cette ville-là. Alors Beth-Shemesh, la maison du soleil, sont des Lévites. Donc ils étaient dans le champ, ils s'adonnaient donc à leurs activités quotidiennes quand l'arche est apparue brutalement. Voilà. Ils ne savaient pas que les Philistins avaient renvoyé l'arche, ils ne savaient rien du tout. Donc l'arche est arrivée dans le champ de Josué d'une manière soudaine, comme un voleur dans la nuit. Ah oui, c'est ça, ça ressemble, ça me fait tilt en même temps. Et je fais le lien avec le rassemblement des chrétiens, ou bien des croyants à Yeshua, qu'on appelle enlèvement. Enlèvement, ça va être comme un voleur dans la nuit. Ça va être comme c'est un événement surprise, de surprise, un événement soudain, un événement rapide. Parce que lorsque le Seigneur avait parlé à Jean dans l'Apocalypse, il n'a pas dit « je viens bientôt », il a dit « je viens rapidement ». Donc les habitants de Beth-Shemesh ne s'attendaient pas à ça, comme également les habitants du monde aujourd'hui ne s'attendent pas au retour du Seigneur Jésus. Voilà, donc le Seigneur Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. L'enlèvement va survenir brutalement. Personne ne s'y attendrait. Et voilà, donc c'est ce qui va se passer. De la même manière comme cela s'est passé ici. Donc le chariot est arrivé dans le champ de Josué. Et si est arrêté. Alors comme ce sont des Lévites, donc ils avaient le droit de porter, puisque l'arche est portée avec des barres, de porter l'arche. Donc ils ont descendu l'arche donc du chariot et ils ont fait un sacrifice de purification, seulement un holocauste, ou bien de culpabilité donc à l'Éternel Dieu, avec les vaches, et ils ont utilisé donc le chariot pour faire du bois, pour faire le feu. Et voilà. Et eux-mêmes, donc, ils ont offert encore des holocaustes à l'Éternel, sûrement pour des sacrifices de culpabilité, ou bien autre. En tout cas, ça n'a pas été précisé. Ils ont offert donc des holocaustes et autres sacrifices. Je pense que c'est tous les autres sacrifices de culpabilité, d'action de grâce, et tout le reste, et des holocaustes, donc, à l'Éternel. Et ils ont descendu donc l'arche et ils ont aussi ouvert le coffret qui était à côté, qui contenait donc les sacrifices des Philistins, les hémorroïdes, de même que les mulots. Vraiment drôle de sacrifice, même si c'est en or, d'accord, quand même. Donc ils ont tout déposé donc sur la pierre, donc c'est quand même en grand nombre, parce que on nous dit non seulement il y a des hémorroïdes pour les cinq princes des Philistins, mais également les mulots selon le nombre des villes fortifiées, des villes avoisinantes. Donc c'est ça. Mais néanmoins, malgré ces sacrifices, malgré que ce sont des Lévites qui habitaient cette ville, donc qui étaient familiers avec le culte du temple, avec le service au temple, même si c'est pas eux qui doivent offrir l'holocauste, bien qui vont dans une fois par an dans le Saint des Saints, donc ce sont des Lévites, des prêtres. Comme aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes, nous aussi, des prêtres. Nous sommes un saint sacerdoce. Et ces Lévites, normalement, devaient être prêts chaque jour, c'est-à-dire se sanctifier chaque jour. Normalement, aucun Lévi ne devait être surpris. Parce que si on t'appelle, tu dois venir. Tu ne peux pas dire que, ah, je ne me suis pas sanctifié, donc je ne peux, je suis impropre au service. Hein, c'est comme des soldats. Le clairon sonne, allez, tu vas à la bataille. De la même manière, nous aussi, nous devons vraiment nous sanctifier chaque jour. C'est pour cela que l'Éternel dit, le livre de l'Apocalypse, à la fin dit, que celui qui se sanctifie encore. Ça devait être un mouvement exponentiel. Puisque la Bible nous dit que nous devons, en tout cas que selon le programme de Dieu, c'est de ressembler chaque jour un peu plus à Yeshua. C'est de rapprocher de l'image de Yeshua chaque jour qui passe. Chaque heure, nous devons nous rapprocher de cette image à l'état d'homme fait, à l'état d'humain fait, d'homme fait. Je pense que cet Adam dont on parle, c'est Yeshua, à l'état d'homme fait, à la statue parfaite du Messie, nous dit la Bible. Donc, malgré les holocaustes et autres sacrifices, la Bible nous dit que les habitants de Beth-Shemesh, des Lévites, voyez, ils ont outrepassé leur rôle, ils ont outrepassé leurs droits, ils ont regardé dans l'arche. Peut-être qu'ils se sont dit, peut-être que les Philistins l'ont ouvert et qu'ils ont volé quelque chose dedans. Mais non. Et vous voyez, c'est aussi, ça procède aussi d'un manque de foi. Un manque de foi. Comment des étrangers, des incirconcis, des êtres humains, des hommes impurs pouvaient ouvrir le coffret sans en être automatiquement punis de mort? Vous voyez? C'est aussi une question de foi. Hein? Ils l'ont ouvert. Non, je ne pense pas que ce n'est pas curiosité parce que ce sont des Lévites. Je pense qu'ils l'ont ouvert pour voir si les Philistins avaient volé ce que contenait l'Arche de l'Alliance. Je nous rappelle que l'Arche de l'Alliance contient les tables de la loi et le bâton fleuri d'Aaron. Voilà, fleuri d'Aaron. Le bâton fleuri d'Aaron. Donc voilà, ils ont ouvert. Ce n'est pas parce qu'ils ont regardé, parce que, en tout cas, je pense que ce sens que Louis II et les autres ont donné à ce verset n'est pas censé, parce que ils ont regardé l'arche. Quand l'arche est arrivée dans le champ de Josué, les Lévites l'ont regardée et ils n'étaient pas morts, ils n'étaient pas frappés du jugement de l'Éternel Dieu. Ils n'étaient pas punis, ils l'ont regardé. Même les Philistins l'ont regardé aussi, n'est-ce pas? Mais ici, la Bible nous rend attentifs à cela. Ils ont ouvert, regardé dans l'arche. Donc, ils l'ont ouvert. Ils ont ouvert l'arche, ils ont regardé dans l'arche. Ils n'ont pas regardé l'arche, ils ont regardé dans l'arche. Et l'Éternel les a frappés. L'Éternel les a frappés. 70 hommes sur 50 000. L'Éternel les a frappés. Alors, oui, frappa les habitants de Beth-Shemesh. Ils ont regardé. Peut-être plusieurs, quand les Lévites ont ouvert, sûrement que toute la population est accourue et que l'arche était restée ouverte pendant longtemps et tout le monde venait regarder. Alors que c'est un objet saint. C'est le siège terrestre de l'Éternel Dieu. Or, la Bible dit que l'Éternel est saint. Et je ne pense pas, parce que quand on lit la version Louis II, on se pose beaucoup de questions. Moi, ça m'a posé beaucoup de questions, parce que je me disais, pourquoi l'Éternel Dieu va frapper les gens parce qu'ils ont regardé l'arche? Alors, comment il fait son jugement? Il frappe les habitants à l'aveugle. Vous voyez, j'ai eu le même problème avec, nous allons le voir après dans Samuel, quand David avait ordonné le recensement et que Joab ne voulait pas, mais il est quand même allé. Et l'ange de l'Éternel avait frappé les habitants de Jérusalem. Je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi? Et y a-t-il des innocents parmi eux? Comment tu as fait ton jugement? Quels sont les habitants qui ont été frappés, qui étaient morts? Tu as dit que tu ne prends pas le coupable pour innocent et que tu ne frappes pas l'innocent et le méchant. Alors la réponse m'est venue. Tous ceux qui étaient morts dans ce recensement de David, ce sont ceux-là qui ne vivaient pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je répète, tous ceux-là qui étaient morts, qui ont été frappés par l'ange de l'Éternel, ou bien tous ceux-là sur lesquels le jugement de Dieu était tombé au cours de ce recensement, c'étaient tous des gens qui vivaient dans la désobéissance, dans l'idolâtrie, comme ici également. Ce sont des gens qui ne sont pas sanctifiés, qui sont dans le péché. C'est pour cela que lorsque ils ont regardé dans l'arche, l'Éternel Dieu les a frappés. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu aveugle, c'est un Dieu vivant. Il juge avec justice. Il ne fait pas périr le méchant avec l'innocent, l'innocent avec le méchant plutôt. Il ne fait pas périr l'innocent avec le méchant. D'accord? Certains habitants de Beth-Shemesh ont été frappés. Pourquoi pas les autres? On nous a dit 70 hommes sur 50 000. Pourquoi pas toutes les 50 000? Pourquoi pas toutes les 50 000? Ouais, pourquoi pas tous les 50 000? C'est ça que je dois faire ressortir. Que l'Éternel est juste dans ses jugements. C'est ce que la Bible nous dit. Donc l'Éternel ne peut pas frapper à l'aveugle. C'est le diable qui fait ça. D'accord? Donc tous ceux qui ont été frappés, les 50 000, les 70 hommes sur les 50, ces 70-là, ce sont des pécheurs. Ce sont des gens qui vivaient dans la désobéissance, qui ne s'étaient pas sanctifiés et qui sont venus regarder dans l'arche. Mais oui, regardez dans l'arche. En tout cas, moi, je ne comprenais pas. Je me dis, Seigneur, mais tu ne vas pas. Comment tu as fait? Tu ne vas pas frapper l'innocent avec le méchant. Donc, de la même manière, lorsque la trompette va sonner, que l'enlèvement va arriver, certains seront pris et d'autres laissés. C'est toujours comme ça. Le jugement fait un tri. Le Seigneur a une vision dichotomique des choses. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Même ceux-là qui disent, OK, moi je suis au milieu, je ne suis ni pour Dieu ni pour le diable. Non, tu es pour le diable automatiquement. On ne peut pas être au milieu, on ne peut pas être centriste, on ne peut pas être neutre. Il faut prendre position. D'accord? Donc voilà ce que moi je comprends de ce verset, que le ténèbre frappa les habitants. Ce ne sont pas tous les habitants, nous l'avons vu, c'est 70 hommes sur 50 000. Mais s'il y a 100 000 là-bas, donc vous voyez, s'il y a 1 million de personnes, donc le chiffre peut se lever très très vite. Ouais, mais ce sont des pécheurs. Comme Ézéchiel. Vous voyez, Ézéchiel a eu une vision quand l'Éternel lui a montré ce qui se passait dans le temple, dans son propre temple, parce que les gens avaient construit une partie secrète là-bas. Ils avaient un espace secret où ils faisaient leur rituel ésotérique, caché des autres. Quand tu rentres dans le temple, tu ne sauras pas, alors que les chefs et les grands eux-mêmes étaient là-bas. C'est comme une société secrète pour se livrer à des rituels autres que le culte à l'Éternel Dieu. Et quand l'Éternel a montré cela à Ézéchiel, voilà, Ézéchiel était totalement bouleversé. Il faisait des choses. De la même manière, ceux qui ont été frappés, ce sont des gens donc qui vivaient dans la désobéissance, c'est-à-dire dans le péché. Voilà, le peuple fut consterné. Oui, quand le jugement de Dieu s'exerce, tout le monde prend peur. Et les habitants de Beth-Shemesh, la maison du soleil est devenue la maison de la consternation quand le jugement de Dieu est tombé sur eux. Donc il dit, mais qui peut subsister devant l'Éternel? Eux-mêmes, ils ont reconnu que l'Éternel Dieu est saint, et que. Et voilà, il ne fait pas copain avec le péché. Et il punit le pécheur. Il punit le pécheur, ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit le pécheur. Alors, les habitants de Beth-Shemesh ont pris peur et ils ont fait appel à l'autre ville. Je pense que Kiriat-Jearim aussi, c'est une ville de Lévite. Et ils vont placer donc l'arche dans la maison d'Abinadab jusqu'à ce que David récupère l'arche lorsqu'il va construire le tabernacle à Jérusalem. C'est ça. Hein? Donc, ils ont appelé l'autre ville de Kiria Yarim en disant: Ok, les Philistins ont ramené l'arche. Venez les chercher. Voyez, venez, venez. Vraiment, ils voulaient s'en débarrasser parce qu'ils ont plus peur. De la même manière, lorsque le jugement de Dieu va s'abattre sur ce monde, et déjà le jugement vient, déjà le jugement vient. Cette guerre va amener une crise économique, la famine. Ça va amener peut-être un effondrement financier parce que avec les sanctions, puisque le monde est tellement interpénétré, les pays sont tellement interpénétrés, mais si tu sanctionnes quelqu'un, mais tu risques d'avoir l'effet boomerang, vous voyez? C'est ça, c'est ce qui se passe. Je pense que nous allons vers de graves crises économiques et de grasse crise financière, de grasse crise alimentaire, je l'avais dit la dernière fois, puisque l'Ukraine et la Russie sont des greniers à blé. Et le pétrole a flambé aujourd'hui. Le baril est, bon, je ne vais pas vous le dire, 110 dollars. Voilà, aujourd'hui, le 4 mars, le baril était à 110 dollars. Demain, on ne sait pas. Et à la pompe, ça se voit déjà. Ça se voit déjà. En tout cas, dans toute crise a ses profiteurs. Il y en a qui pêchent en eau trouble, mais il y en a aussi qui troublent l'eau pour mieux pêcher. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, de la même manière que l'arche est apparue soudainement à Beth-Shemesh, de la même manière, la trompette sonnera et seuls ceux qui seront prêts l'entendront. Et après cela, après cela, Yeshua, le Seigneur Yeshua, va redescendre physiquement des cieux et va venir prendre possession de ce monde. Et les gens qui vont croire à une invasion extraterrestre peut-être et qui vont s'y opposer seront brisés. Voilà, le Messie vient, mes frères et sœurs. Regardons vers lui. Regardons vers chaque jour qui passe, sanctifions-nous aussi, parce que certaines personnes, des Lévites de Beth-Shemesh, ne se sont pas sanctifiés. Ils ont regardé dans l'arche et ils ont été punis de mort. Donc, 70 hommes sur 50 000, mes frères et sœurs, nous sommes plus proches de la fin des temps que lorsque Paul l'apôtre, Pierre et tous les autres en parlaient. Donc sanctifions-nous encore davantage, hein, et prions, continuons de prier. En tout cas, la Bible même nous enjoint de prier sans cesse, de prier tous les jours, de méditer la parole. Le simple fait de méditer la parole de Dieu déjà nous sanctifie, nous purifie et nous aide à garder le cap, mes frères et sœurs. Que le Ténèbre Dieu nous bénisse et nous garde pour que lorsque la trompette sonnera, que nous tous nous soyons réunis avec lui. Mais nous devons payer le prix. Chacun doit payer le prix, mes frères et sœurs. C'est pas en dansant, voyez, en dansant, en dansant dans les assemblées, en transformant nos assemblées en music box ou bien en boîte de nuit chrétienne ou bien autre chose, en lieu de divertissement et d'enrichissement que nous allons écouter la trompette. Ces bruits de vacarme vont étouffer le son de la trompette, je suis sûr. Voilà. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen et amen. Et nous n'aurons pas d'échappatoire. Hein. Ici, les habitants de Beth-Shemesh ont appelé, ont envoyé l'arche, ils ont envoyé la patate chaude à leur frère de Kiriat-Yearim, alors que lorsque l'enlèvement va survenir, mais il n'y aura pas d'échappatoire. Voilà, il n'y aura pas d'autre alternative que de mourir mourira sous les bottes, sous les coups de l'anti-messie et de ses sbires pour être sauvé. Voilà, au prix de notre vie. Mais en restant strictement fidèle à l'Éternel Dieu. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Amen et Amen. Shalom.